Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons prier ensemble et nous allons partager la parole.
Père,
nous voulons te remercier encore pour cette opportunité de pouvoir écouter ta parole. Merci pour toutes les richesses qu'il y a dans ce merveilleux livre de l'Apocalypse que nous étudions. Je prie pour ce peuple qui a soif, pour que tu lui donnes encore plus soif de toi, Seigneur. Qu'il découvre tous les secrets du monde spirituel. Père, je te remercie parce que tu nous donnes, tu nous ouvres, tu nous donnes cette manne cachée, cette nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour pouvoir voir la puissance de ta révélation. C'est pourquoi je prie encore en tant que serviteur de Dieu dans cette église et dans ton royaume. Je parle sur ton peuple, Seigneur, pour que ce peuple puisse gagner en intelligence spirituelle,
qu'ils
puissent découvrir les secrets de ta parole, les mettre en pratique et voir vraiment le royaume les influencer. Dans le nom précieux de Jésus, nous prions. Amen.
Amen.
Nous en sommes sur cette longue série, très longue série sur l'Apocalypse. Nous avons vu que l'Apocalypse veut dire révélation. C'est le livre qui clôture la parole de Dieu. Et je vous ai montré un certain nombre de choses quand nous étudions l'Apocalypse qu'il ne faut jamais perdre de vue. Nous avons vu 10 choses, je vais les résumer extrêmement brièvement. On a vu que c'est l'histoire finale de l'humanité. Que ce n'est pas un livre de catastrophe, mais c'est le schéma prophétique final que Dieu a prévu. C'est le livre où Dieu exerce ses jugements. C'est la révélation de la gloire de Dieu aussi. On a vu que ce livre n'est pas forcément chronologique.
Et
nous le verrons au fur et à mesure quand nous allons découvrir les visions, les différentes visions. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de symboles, il faut faire attention à l'interprétation des symboles. Ce livre n'est pas là pour nous faire peur en tant que chrétiens nés de nouveau, mais nous avons vu que c'est un livre où vraiment nous serons amenés à régner. En fait, ça nous montre exactement comment nous allons régner avec Christ pour l'éternité. Ce livre nous montre la gloire qui nous est réservée dans l'éternité. Il nous montre aussi que le pécheur, que nous avons un message pour le pécheur, lui dire repens-toi si tu veux aller dans l'éternité avec Dieu, sinon tu iras dans la damnation éternelle. En résumé, Dieu n'est pas gentil. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour dire « Bon, c'est pas grave, tu ne m'as jamais connu sur la terre, mais tu iras quand même au ciel, après tout, je suis gentil. » Non, Dieu est un Dieu d'amour, mais aussi Dieu est un Dieu de jugement. Je vous ai montré qu'on ne doit pas spéculer sur les événements négatifs que nous voyons dans l'histoire de l'humanité pour penser que c'est écrit d'avance dans la Bible. Non, le livre de l'Apocalypse, les choses commenceront à l'enlèvement d'église.
Maze twabiraba ngo tuvuge ngo niko byanditse mu gitabo cy'ibyahishuriwe oya siko bimeze ibyahishuriwe bizotangura kuvuga neza ibiboneka mwisi ishengero rimaze.
Quand nous serons dans les événements prophétiques, nous étudierons les livres de Daniel.
Nitwamara gushika tukiga ku bitabo bya Daniel.
Et puis nous étudierons aussi bien sûr Matthieu et différents prophètes comme Zacharie entre autres.
Tukiga Matayo, tukiga kandi na Zekaria.
Nous avons vu que Jean reçoit une vision de Jésus glorifié dans chapitre 1, nous l'avons étudié ensemble. Je vous ai montré ce que c'est qu'une vision, les différents types de visions. Je vous ai montré que ce livre nous parle du royaume de Dieu. Donc tout ça, nous allons voir constamment le royaume, le règne de Dieu. Je vous ai expliqué différentes choses, par exemple les sept esprits de Dieu, nous en avons parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vous ai montré aussi la vision que Jean reçoit à partir du verset 10 de Apocalypse chapitre 1.
Et
on voit comment d'un seul coup Jean qui a connu Jésus dans la chair voit Jésus maintenant qui est glorifié, non plus ressuscité mais glorifié.
Et
c'est une révélation qui le surprend par la puissance de
Christ.
Et nous avons décrit toutes les différentes parties qui sont données dans cette vision. Jésus. Et puis, Jésus va adresser un message aux sept églises. Et nous avons remarqué que ces sept églises concernent l'ouest de la Turquie actuelle. Et Jésus va s'adresser donc à ces églises avec un message. On va regarder quelques cartes que nous avons vite fait. Et Jésus va adresser un message à sept églises qui existaient. Donc ici, c'est l'ouest de la Turquie. Et en fait, on s'aperçoit que les sept églises, en fait, ça fait une sorte de chemin classique, certainement. C'était sept églises qui existaient à l'époque de Jean. Et la première qui est
Éphèse
était la seule dont nous avons l'existence dans les Actes des Apôtres. Mais les Actes des Apôtres s'arrêtent en l'an environ 66-67, un peu avant d'ailleurs, 64-65, on sait où.
Et
puis il y a 30 ans, depuis la fin des Actes des Apôtres, jusqu'au moment où Jean reçoit sa révélation. Nous avons vu que Jean était très âgé quand il reçoit sa révélation, il avait environ entre 90 et 95
ans.
Et à ce moment-là, ces églises étaient existantes. Donc elles ont été formées entre l'an 60 et quelques jusqu'à l'an
90.
Alors, nous avions commencé à voir ce message aux sept églises, nous avions commencé par
Éphèse.
Et je vous rappelle que ces sept églises actuelles, bon, certains commentateurs ont dit que ça représentait sept périodes de l'histoire de l'église.
Mais
franchement, je
ne
suis pas trop d'accord avec cette interprétation-là. Parce qu'en fait, il y a plus des messages qui nous montrent différents types d'églises. Et dont nous pouvons retirer des leçons. Rappelez-vous que la parole de Dieu est comme un miroir. Donc elle nous sert clairement à quoi ? À voir dans l'état dans lequel nous sommes. Pour faire quoi ?
Et
bien pour changer, pour être transformé. C'est toujours l'objectif de la parole. Tu lis la parole, tu dis, ah finalement c'est comme ça que je suis. Et ça t'inspire à quoi ? Au changement. Ça t'inspire à l'excellence. Ça t'inspire parfois à la repentance. Et c'est exactement ce que le Seigneur va dire à ses églises. Donc, Éphèse, nous le savons, c'est la seule église dont nous avons connaissance dans la parole de Dieu à partir de acte 19, nous l'avons vu. Et nous avons vu que c'est tout à fait le type d'église qui est très bien enseignée. Mais finalement, elle est repliée sur elle-même. Ça veut dire que c'est une église qui aime le Seigneur, qui a absolument compris comment marcher dans la bénédiction divine. Par contre, son problème, c'est qu'elle se tourne uniquement sur elle-même. Elle oublie qu'il y a un monde autour d'elle. Un monde qui se meurt. Un monde où il va falloir aller pour aller prêcher l'évangile. Donc nous avons vu que l'église d'Éphèse avait environ entre 40 et 50 ans lorsque Jean reçoit cette révélation. Nous avons vu que Jésus se présente comme celui qui règne sur son église. Au verset 2, donc du chapitre 2, Jésus loue cette église pour ses œuvres, son travail. Sa persévérance. Et je vous ai montré que la persévérance, c'est appliquer les lois spirituelles de Dieu dans un milieu hostile jusqu'à temps que ce milieu soit influencé par le royaume de Dieu. Et sans relâchement, bien évidemment, sans se découragement, sans se décourager devant l'adversité. Ensuite, on a vu que Jésus loue cette église, pourquoi ? Pour le discernement qu'elle a des ministères. Et je vous ai montré qu'il y a des vrais ministères, mais il y a aussi des faux ministères. Des vrais serviteurs de Dieu et des faux serviteurs de Dieu.
Et
nous avons parlé des faux prophètes, mais aussi des faux docteurs. Et Jésus ici dit que cette église a éprouvé ceux qui se disent apôtres. Et là, le terme éprouver veut dire tester le caractère. Regardez vraiment les motivations du cœur de quelqu'un. Et c'est très important. Un serviteur de Dieu doit avoir des motivations pures quand il sert
à Dieu.
Quand un serviteur de Dieu n'a pas de motivation pure, qu'il cherche de la gloire, qu'il cherche de l'argent, qu'il utilise sa position pour profiter des gens. Dans tous les domaines, Dieu ne peut pas réaliser sa destinée. Et un serviteur de Dieu doit être éprouvé. C'est le temps qui éprouve les cœurs. Et cette église ne se faisait pas avoir. N'importe qui ne passait pas à Éphèse pour aller raconter tout ce qu'il avait envie de raconter. Mais c'était clair, cette église savait discerner les apôtres, les vrais, les faux, entre autres. Ensuite, nous avons vu que, au verset 3, que Jésus louait la persévérance. Et cette souffrance, donc, de se tenir pour la vérité. Parce que ça, c'est aussi très important. Nous allons le voir. L'église de Dieu est la colonne et l'appui de la vérité. C'est ce que Paul nous dit dans Timothée. Et se tenir pour la vérité nous amènera toujours des souffrances et des persécutions. Il est très facile de se tenir pour le compromis, il n'y a pas de problème. Être là, vous savez, assis entre deux chaises. Un coup, j'amène la vérité et de l'autre côté, je me compromets. Par contre, quand nous voulons nous tenir pour la vérité dans la parole, dans sa présence, dans nos motivations, Cela coûte cher, frères et
sœurs.
Et Dieu a besoin de gens qui sont capables de se tenir sur leurs convictions. Autant chez les serviteurs de Dieu, autant chez les chrétiens. Et c'est très important. Rappelez-vous que nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes supposés être des exemples. Nous ne sommes pas parfaits, nous faisons nos erreurs. Ne cherchez pas un serviteur de Dieu parfait. Parce que ça n'existe pas. Par contre, il y a des bons serviteurs de Dieu. Un bon serviteur de Dieu n'est pas quelqu'un qui est parfait. C'est-à-dire sans faute. C'est quelqu'un qui va faire des fautes et qui sait se corriger. Il n'y a pas de serviteur de Dieu parfait. Par contre, nous devons être de bons serviteurs de Dieu. Dans le sens d'être capable de nous corriger en cas de déviation. Vous savez, il y a des gens, parfois, ils vont dans des églises, ils attendent que le pasteur soit, entre guillemets, parfait. Non, le pasteur aussi a ses problèmes. Il a ses difficultés. Il a ses attaques personnelles. Il a ses défis de famille. Il a ses défis financiers. Il a toutes sortes de choses. Vous savez, être pasteur, c'est quelqu'un, c'est avoir une image publique. Et des fois, c'est pas facile. Parce que des fois, vous pouvez faire quelque chose et les gens vont dire, ah, le pasteur, il a fait ça. Alors que si c'est un chrétien qui va au même endroit et fait la même chose, on dira rien sur le chrétien.
Donc,
on doit faire attention partout où on va, comment on salue les gens. Parce que des fois, les gens peuvent se dire, mais non, mais qu'est-ce qu'il a, ce pasteur? Parce qu'on projette une image en tant que serviteur de Dieu. Jésus reprochait que cette église avait perdu son premier amour. Et je vous ai montré quelque chose d'important ici. C'est que notre amour, le feu du premier amour, s'en va toujours. Je vous ai clairement montré, c'est la même chose avec les fiancés. Et quand les gens après se marient au début, c'est exactement ça. C'est le feu du premier amour. Mais le feu du premier amour est un feu de paille. Le vrai amour qui va résulter d'une
passion,
c'est comment nous allons passer les meilleurs moments, mais aussi les moments les plus difficiles ensemble. Et avec Dieu, c'est la même chose. Tu es là au début, ah Jésus, ah Jésus. Tu es à l'église tout le temps.
Wow.
Tu veux tout savoir sur le Seigneur. Même n'importe qui pourrait te dire n'importe quoi sur Dieu. Il suffit qu'il y ait juste le mot Dieu dedans et une Bible quelque part que tu vas croire tout ça. Et puis tu vas commencer à avancer avec le Seigneur. Et les premiers moments difficiles vont venir. Et c'est là où tu vas être testé dans ton amour pour Dieu. Et cette église avait mis son premier amour de côté. C'est-à-dire qu'elle était bénie, tout allait très bien, mais elle n'était plus enflammée d'amour pour Dieu. Et Jésus lui a reproché cela. De dire non, il faut que tu reviennes dans cette motivation, ce zèle divin que tu avais au début. Et rappelez-vous, ce monde constamment nous refroidit spirituellement. Le monde te refroidit constamment. Tu veux passer du temps avec Dieu, tu veux être fervent pour le Seigneur. Et ce monde va te refroidir. Et il va falloir que tu recours vers ton Seigneur pour aller prendre de la chaleur de son amour, de l'aimer quelles que soient tes circonstances. Et parfois c'est difficile parce que cet amour va être éprouvé. Le vrai amour avec Dieu et le vrai amour en général. L'amour divin, c'est d'aimer la personne pour qui elle est. Non pas pour ce que tu ressens ou pas. Ça, c'est l'amour qui est éprouvé. Je vous ai montré avec Pierre, entre autres. Alors, ensuite, il parlait des Nicolaïtes. On en reparlera encore, les Nicolaïtes. Et on a vu que ces Nicolaïtes, c'était une doctrine. entre autres de gens qui prenaient les dons divins et qui les utilisaient à des fins impures. Parce qu'il y a deux passages qui nous parlent des Nicolaïtes dans l'Apocalypse. Et ces Nicolaïtes, en fait, c'était des gens qui utilisaient les dons divins. Et il y a cette comparaison avec Balaam et Balak. Balak, ce roi païen, édomite. Et il y avait Balaam qui était prophète de Dieu et qui s'est fait pervertir pour de l'argent. Balak voulait que le prophète Balaam maudisse le peuple d'Israël alors qu'il passait sur son territoire. Et c'est l'utilisation avec de motifs impurs de ce que Dieu nous a donné. Mais malheureusement, il existe des gens, des serviteurs de Dieu, qui utilisent les dons qu'ils ont reçus du Seigneur à des fins qui sont impures. Et ici, justement, l'église d'Éphèse ne supportait pas ce genre de personnes. Donc, elle éprouvait les faux apôtres et les ministères en général, et aussi elle repoussait, elle répugnait, elle avait en horreur ceux qui marchaient en utilisant des dons divins pour des fins impures, personnelles, se glorifier eux-mêmes, se glorifier donc eux-mêmes, essayer de soutirer de l'argent aux gens parce qu'ils venaient peut-être faire des miracles, etc. Alors au verset 7 il est dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est-à-dire celui qui ira jusqu'au bout. On verra ce que c'est que l'arbre de vie à la fin de l'Apocalypse. Il y a des choses sur lesquelles je passerai assez rapidement parce que nous allons en parler plus tard. Alors maintenant, la deuxième église, c'est l'église de Smyrne. On va remettre la carte, s'il vous plaît. Donc l'église de Smyrne, ça va être la deuxième qui est mentionnée, juste au-dessus de la ville d'Éphèse. Et nous allons lire ensemble ce que Jésus va dire à cette église. Donc à partir du verset 8, il dit « Écris à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, le vainqueur ne sera pas touché par la seconde mort. » Alors ici, Jésus d'abord va s'adresser à une église. En fait, qui n'arrive pas à régner dans son héritage en Christ.
Vous
voyez, Éphèse, c'était vraiment une église qui connaissait le royaume, qui savait laisser le royaume l'influencer. Qui était une église bénie, mais trop tournée sur elle-même. Ici, l'église de Smyrne, on va mettre le passage, s'il vous plaît, merci. Ici, l'église de Smyrne, eh bien, en fait, ça va être une église qui, elle, en fait, ne vit pas, n'a pas compris son héritage en
Christ.
Donc, c'est une église qui aime le Seigneur, mais qui ne marche pas dans ce que Jésus a réalisé pour elle. Donc, Jésus d'abord se présente, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie.
ngo kandi wandike ngo utuwambere kandi uwiherezo wari yarapfuye kandi akaba muzima.
En fait, dans cette salutation entre guillemets, eh bien, en fait, Jésus se montre comme le maître de l'univers. Qu'il est bien vivant. Et que quoi qu'il se passe, lui, il maîtrise la situation. Donc, s'il y a persécution, s'il y a difficulté, il maîtrise la situation parce qu'il est le maître de l'univers. Il est vivant, la mort n'a pas pu le garder dans le tombeau. Donc, il maîtrise les situations. Donc, en fait, il dit à cette église, au travers de cette salutation, il dit, tu pourras passer par n'importe quoi, rappelle-toi, c'est moi qui maîtrise toutes choses. Il
n'y
a aucune circonstance qui est trop forte. Rien n'est trop puissant pour moi. Parce que cette église va passer par des moments difficiles.
Là.
Et c'est pour ça qu'elle a d'ailleurs été comparée à la deuxième période de l'histoire de l'église qui est l'église persécutée. Au deuxième et au troisième siècle,
où
il y a eu de terribles persécutions sous l'Empire romain. Comme je vous le disais précédemment, je ne suis pas trop d'accord de classifier les sept églises avec les sept périodes de l'histoire de l'église. Mais on peut voir que cette église va passer par des moments très difficiles.
Vous
voyez, Jésus au verset 9 dit: je connais ta tribulation et ta pauvreté et pourtant tu es riche. Et après il dit, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. En fait, cette église vivait au milieu donc des calomnies, en fait elle était humiliée. C'est une église humiliée. C'est une église qui est dominée par les païens. Pourquoi ? Parce qu'elle pense qu'elle est pauvre, c'est-à-dire qu'elle a un Dieu qui est fort, mais finalement, oh Seigneur, tu es grand, tu es puissant, mais nous on galère sur cette terre. On a du mal à s'en sortir ici. Finalement, Seigneur, on attend le ciel. Parce que ici sur la terre c'est la cata, il
n'y
a que des problèmes. En fait, c'est une église qui n'arrive pas à vivre dans la victoire. Elle est dominée. Pourquoi elle est dominée? Parce qu'elle pense qu'elle est pauvre à tous égards, spirituellement, financièrement, relationnellement, en influence. En fait, c'est le monde et les systèmes de ce monde qui dominent cette église. C'est une église qui prêche le salut, qui prêche la grâce de Dieu, qui fait sa sanctification à coups de machette. C'est-à-dire que c'est vraiment, faut pas faire ça. Donc les gens se tiennent comme ça, ils s'efforcent de ne pas faire le mal, ils
ne
fréquentent pas beaucoup les païens parce qu'ils ont peur que les païens les polluent. Donc ils sont là, ils sont tout le temps comme ça, quoi. Attention, est-ce que j'ai peut-être péché aujourd'hui? Seigneur, pardon pour les péchés que je sais que j'ai fait aujourd'hui et pour ceux que certainement j'ai fait mais que je ne sais pas que j'ai fait. Donc elle se laisse insulter. Elle vit ce qu'on appelle dans le fatalisme. C'est-à-dire, si Dieu veut nous délivrer, nous guérir, nous bénir, il va le faire. C'est l'Église qui prêche qu'en fait, la balle est seulement dans le camp de Dieu. C'est-à-dire, s'il le fait, il le fait.
ishatse kubikorera abikora.
S'il le fait pas, c'est que c'était pas sa volonté.
Bitabaye naho ntibwari ubugombe bwa.
Donc si je souffre, je souffre.
Mbabaye ndababara.
Si je suis malade que je prie pour qu'il me guérisse, s'il me guérit pas, ça veut dire qu'il veut que je sois malade.
Ngwaye nkasenga nkwinkize itankijije bisigura yuko ari ubugombe bwa.
L'église qui vit dans la défaite.
Ishengero liba mu kunesha.
Qui dit que c'est la souveraineté de Dieu.
Rikavuga ngo n'ubugombe bw'Imana.
Et qui ne prend pas ses responsabilités.
Ariko ntirimenye uruhara rwaryo.
Donc des gens qui sont gentils, braves, qui sont nés de nouveau,
abantu bavutse ubwa kabiri babana beza bameze neza,
mais qui sont remplis de religiosité.
Ariko buzuye idini.
On en trouve des églises comme ça.
Hari amashengero ameze gutyo.
C'est vraiment l'église
n'ishengero rero
qui vit sans puissance.
Ribayeho atabushobozi rifise.
Elle prêche le salut, elle jeûne, elle prie, elle fait tout ce qu'elle doit faire.
Riravuga kukizwa, ririgisha, ririgisha, ririsonzesha, rirasengera ko
ribishoboka. Mais les circonstances dominent cette église.
Ariko ibyo ibibazo by'ubuzima biraganje iyo shengero.
Elle ne sait pas changer les circonstances par la foi.
Nirizi guhindura ibyo ricamwo biciye mu kwizera.
C'est l'église qui dit tout ira mieux demain.
N'ishengero rivuga ngo ejo bizogenda neza.
Et demain est pire qu'aujourd'hui.
Ariko ejo hakaba habi gusumba uyu munsi.
Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas, ne comprend pas.
Kuko ritazi ridatahura.
Entre autres, cette parole d'Éphésiens 1 verset 3.
Iri jambo ryo mu Efeso igice cya mbere umurongo wa gatatu.
Dans Éphésiens 1 3, Paul nous révèle quelque chose qui est important.
Ariko no Paul yatubwiye gihambaye.
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ.
Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo se iragahezagirwa yaduhezagira imihezagiro yose impwemo ahantu ho mwijuru muri Kristo.
C'est vraiment une église qui ne comprend pas qu'elle a déjà un réservoir de bénédictions. C'est l'église qui prie, Seigneur, baptise-nous du Saint-Esprit. Et rien ne se passe. Et il dit, Seigneur, baptise-nous du Saint-Esprit. Et rien ne se passe. Seigneur, baptise-nous du Saint-Esprit. Oh Seigneur, ça fait 10 jours que je jeûne pour que tu me baptises de ton Saint-Esprit. Et rien ne se passe. Parce que c'est l'Église qui ne comprend pas que elle a déjà été bénie, qu'elle a juste à recevoir. C'est l'Église qui se bagarre dans la prière, qui essaye de déverrouiller les verrous de fer, qui verrouille les portes du ciel. C'est l'Église qui ne comprend pas que Jésus a ouvert une route nouvelle. Que la bénédiction lui appartient. C'est l'Église qui se comporte comme ce frère aîné de Luc chapitre 15. On a une histoire de ce fils prodigue. Nous connaissons tous cette histoire. De cet homme qui avait 2 fils. Et le fils cadet vient voir son père et lui dit, Seigneur, mon père, pardon, donne-moi la moitié de mon héritage. Il avait déjà enterré son papa. Il est parti, il a fait toutes les gaffes possibles et imaginables. Il revient avec un cœur repentant, ayant vraiment compris ses horreurs. Toutes les choses qu'il a pu faire, qui avaient déplu à Dieu et à son père. Il revient et son père l'accueille avec joie. Il fait une fête pour lui. Et là, il y a le frère aîné qui entend la musique, qui voit qu'il y a une, qui s'enquérit de la situation auprès d'un travailleur. Il demande à un travailleur, qu'est-ce qui se passe ici? Et le travailleur lui explique. Ton frère qui était perdu est revenu à la maison. Et ton père lui a fait une fête. Et là, le frère aîné, au verset 31, juste un peu plus haut, excusez-moi, 28, il se mit en colère. Ça, c'est le fils aîné. Le fils aîné apprend qu'on a fait une fête pour le fils qui était perdu, qui a gaspillé la moitié de l'héritage familial, qui revient
kubera ko agarutse
scandale des scandales on lui fait une fête
Et
il dit, il se mit en colère, le fils aîné. Celui qui était sage. Il ne voulait pas entrer, son père sortit et le pria d'entrer. Verset 29. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Donc il est là, il dit, « Moi je t'ai servi, papa, j'ai fait tout ce que j'ai pu. » Verset 30. Et quand ton fils arrivait, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Verset 31. Mon enfant, lui dit le père. Le père va réagir. Le père, c'est l'image de Dieu ici. Ici, le père va répondre au fils aîné. Le fils aîné qui a servi le papa.
Tu n'as
pas fait de gaffe. Mais d'un seul coup, le père va lui dire, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as à disposition les biens de la maison. Tu es sérieux, c'est bien mon fils. Tu es quelqu'un qui me sert, qui n'essaye de pas me faire d'erreur, tu ne fais pas d'erreur, c'est bien mon fils. Mais par contre, tu as un problème. Tu fais tous tes efforts pour plaire, c'est bien. Mais
tu
as un problème. C'est que tu ne sais pas profiter de ce qui t'appartient. Et ça, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Qu'on amène à Jésus. Et d'un seul coup, on va leur dire, « Ah, maintenant, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tu n'as plus le droit de faire ça. Tu ne dois pas faire, tu ne dois pas faire, tu ne dois pas faire. » Et on fait des gens malheureux. Des chrétiens qui ont été libérés par Jésus et qu'on jette à nouveau dans une autre prison, c'est celle de la religion. Ils ont à leur disposition le royaume de Dieu et on leur dit, tu sais un chrétien, il doit toujours être sérieux. Donc il ne doit jamais rire. Il doit marcher un peu comme ça parce que c'est l'humilité. Dans la rue, il doit marcher comme ça. Et puis, comme salutation, il doit avoir un langage spécial des sauvés, des baptisoires. Yes, Hashimwe. Au lieu de dire bonjour. En fait, il est rempli d'un truc autour de lui, vous voyez. Et le monde qui le regarde dit, celui-ci là-dedans ça tourne pas très bien. Comme vous dites ici, et en fait c'est le problème de cette église. Elle peut vivre dans la liberté, dans son héritage, dans les richesses de
Christ.
Et elle vit misérablement. Elle n'a pas découvert qu'en Christ, en Christ, il y a une qualité de vie exceptionnelle. Elle n'a pas découvert ça. Parce que peut-être qu'on ne lui a pas prêché.
On lui a
simplement prêché qu'il faut être pauvre, malheureux, malade et attendre qu'au ciel, tout ira très bien. Donc le monde la domine. Le royaume de Dieu ne l'influence pas. Les lois du royaume de Dieu ne viennent pas transformer ces situations et bloquer les actions sataniques. Elle se retrouve dans le petit coin, du petit coin, du plus petit coin, le plus pauvre de la ville, parce que le loyer est moins cher là-bas. Et quand le maire de la ville désire dire, allez, ici on va construire des immeubles, partez.
Maze umukuru w'igisagara akavuga ati ahageze ko tuhubaka amazu manini manini mwe nimuveho.
Ati oui monsieur.
Ishengero rya Kristo ngo turakubise
mutaka. On attend le ciel.
Twe turindiriye ijuru tuzoririra.
On ira prier derrière les arbres, en dessous des arbres là-bas dans la forêt au plus loin pour ne pas déranger.
No musi ibiti tuzorindirira ijuru ntacho ntuzobagora mwibereho muri byo byahana muri yo siyanye.
C'est pas de l'humilité, c'est de la stupidité.
Ukosuguca bugufi n'ugucishwa bugufi ni kuba mu bujuju.
On commence dans l'état où nous sommes trouvés, ça c'est vrai.
Umuntu yamenye Imana yisanga habari uko niko bisanzwe
biri. Dans la parole de Dieu, il y a un message de transformation.
Ariko mu ijambo ry'Imana hari ubutumwa
bwo guhinduka.
Hari ubutumwa bw'icubahiro.
Là où il y a la gloire de Dieu.
Ahari kuninahazwa kw'Imana.
Il y a la pensée de Dieu.
Haba hari ivyiyumviro vy'Imana.
Dieu n'est pas en train de penser à une petite église qui se fait chasser par des fils et des filles du diable et qu'il faut qu'elle s'écarte et qu'elle ait aucune puissance.
Mu vyiyumviro vy'Imana rero ntihariyo yuko ishengero ry'Imana girukanwa rikinagizwa n'abana ba Satani rikaba hatabubasha tankomezi na zikenya rifise.
Dieu a besoin d'une église puissante, forte et influente.
Imana rakeneye ishengero rikomeye rihindura ibintu
de par l'influence du royaume de Dieu.
Bichiyehe mu guhindurwa n'ubwami bw'Imana.
Nous allons influencer la terre.
Natwe tugahindura isi.
Et transformer les situations. Jésus reprochait à cette église. Tu es pauvre. En tout cas, tu te considères pauvre. Bien que tu sois riche. Les gens te calomnient, t'humilient. Et tu te laisses humilier. Tu n'as pas compris. Que tu as un héritage. Ah si, si. Mais dans l'éternité, quand on sera au ciel.
Mais
tu n'as pas compris que tu as un héritage présent. C'est vrai, tu as un héritage éternel. Mais pour l'instant, tu es dans ton corps. Et il y a un héritage, il y a des choses qui t'appartiennent. Et c'est exactement ce que Jésus reprochait à cette église. Cette église qui se faisait humilier alors qu'elle aurait pu dominer. Dieu appelle son peuple à dominer, frères et sœurs. Dieu appelle son peuple à dominer. Mais il faut qu'il comprenne comment il peut dominer. Comment il peut influencer les situations. Comment dans le système de ce monde, c'est toute la série que je suis en train de faire le dimanche matin ici, sur le monde invisible. Comment nous pouvons influencer cette terre, notre vie et l'environnement dans lequel Dieu nous a placés au travers des lois du royaume de Dieu et amener l'influence du diable à être courbée devant nous. Et ça, c'est notre choix. Cette église de Smyrne ne savait pas ça. Tes tribulations, tes pauvres, pourtant tu es riche. Spirituellement, tu as toutes mes richesses qui doivent déboucher sur l'influence que tu dois avoir. Donc tu subis les calomnies. C'est une église qui n'est pas enseignée. Dieu, en sous-entendu, est méchant. Ils ont une mauvaise image de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise image de Dieu. Quand tu n'as pas une image de Dieu selon la parole de Dieu, tu ne pourras jamais avoir une relation puissante avec Dieu. Si tu as peur de Dieu, si tu n'es pas convaincu que Dieu a le meilleur pour toi, qu'il a le meilleur plan pour toi, qu'il a une destinée extraordinaire pour toi, si ce n'est pas quelque chose qui est devenu une conviction dans ton cœur, tu n'arriveras jamais à sortir des circonstances dans lesquelles tu es. Et c'est l'image que tu as de Dieu.
Il
y a beaucoup de chrétiens qui pensent que Dieu leur veut du mal.
Que
Dieu n'a pas le meilleur plan, ne veut pas le meilleur pour eux.
Et
quand tu as cette image mauvaise de Dieu, quand tu veux accrocher ta foi pour changer des circonstances, tu n'y arrives pas. Pourquoi tu n'y arrives pas? Parce que tu es bloqué quelque part. Tu dis oui, c'est vrai, Dieu promet ça dans sa parole. Mais au plus profond de toi-même, tu dis, est-ce que c'est vraiment pour moi? Tu vois l'autre qui est béni et tu dis quelque part,
ah,
Dieu, il a vraiment été bon envers cette personne. C'est pas tout à fait juste, parce que moi, je suis quand même plus spirituel que cette personne. Et tu commences à comparer les choses, à comparer les gens. Et tu es en train de te créer une image de Dieu qui est tellement fausse. Quand tu découvres que son amour est inconditionnel,
qu'il
veut le meilleur pour toi,
mais
tu dois connaître ce qu'il a de meilleur pour toi. Alors que tu découvres son caractère d'amour, même les pires choses, tu les passeras avec puissance et victoire. Mais cette église ne savait pas cela. Donc Jésus est obligé de les rassurer au verset 10. Parce qu'il voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette église. Que cette image qu'ils ont de lui n'est pas bonne. Et qu'il y a tout un travail à faire. Donc Jésus va rassurer cette église. Il va dire, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui souffrent inutilement. Et Dieu est obligé de les consoler comme des petits enfants alors qu'ils devraient déjà être adultes spirituellement. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent des prophéties. Mais la prophétie qui est la plupart du temps souvent parlée, donnée donc, c'est souvent une prophétie qui va consoler, qui va exhorter, qui va édifier. Consolation, édification, exhortation. Et ça s'adresse aux bébés spirituels. Si
tu
es tout le temps en train de prier, Seigneur, je voudrais une prophétie. Aujourd'hui, je vais dans le groupe de prière, il me faut une prophétie, Seigneur. Ça veut dire que tu es un bébé spirituel. Dis à ton voisin, ne sois pas un bébé spirituel. Mais grandis un peu. La simple prophétie, c'est pour les bébés spirituels. Parce que quand tu as grandi un peu plus, tu n'as plus besoin de simples prophéties régulièrement. Parce que tu sais marcher avec la parole de Dieu. Maintenant, il y a certains moments où Dieu marquera ta vie spirituelle avec des temps prophétiques et certaines prophéties de confirmation.
Mais
combien je vois de gens ruiner leur destinée avec ces histoires? Ils sont supposés grandir dans le Seigneur. Et toutes les 5 minutes, il faut dire, ne crains point, crois seulement. Ne t'effraie point. Ne promène pas tes regards inquiets.
Tout
ça, c'est pour les bébés qui n'ont pas encore grandi dans la foi. Si t'es grand, par exemple, t'es le fils aîné de 20
ans.
Et si tu as ton papa qui vient te voir toutes les 5 minutes, ne crains pas ce que tu vas manger dans ton assiette, ce qu'on t'a préparé aujourd'hui. Ne crains pas quand tu dormiras la nuit, il n'y aura aucun animal qui va venir te manger. Tu vas te demander si ton papa il est bien dans sa tête, hein. Et ça serait normal que tu te poses cette question. Mais on a l'impression qu'il y a constamment des chrétiens qui ont besoin de ce genre de choses. Apprends-toi à dire à Dieu plutôt. Seigneur, tu as dit dans ta parole ça. Les circonstances s'opposent vraiment ici.
Mais
Seigneur, je fais confiance à ta parole. Et je ne crains point. Je suis fort en toi, Seigneur. Ça, c'est ce que tu dois faire. Il faut grandir un peu. D'un seul coup, tu entends sur le toit des bruits bizarres pendant la nuit. Et tu es là et tu te mets sous tes couvertures et tu te caches. Sors dehors et dis, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ça suffit maintenant. Vraiment. Mes frères et sœurs, les chrétiens sont trouillards, mais trouillards. Et Jésus, là, était obligé de leur dire. Parce qu'il savait que c'était une église qui avait du mal, qui ne marchait pas dans la victoire. Et vous savez, parfois, ce n'est pas de la faute des gens, des chrétiens. Souvent, c'est de la faute des serviteurs de Dieu.
Je n'arrive
pas à comprendre comment un serviteur de Dieu, qui est supposé être un exemple de victoire et de foi, arrive à faire peur à ses brebis. Imaginez-vous, vous avez un berger qui a un troupeau de brebis et il voit un loup là-bas ou il voit deux yeux quelque part là. Il dit, les brebis, il y a un loup. Mais écoutez, il y a des prédicateurs qui font peur à leurs chrétiens. Il leur raconte les malheurs qu'il va y avoir sur la terre qu'il y a marqué dans l'Apocalypse. Que Dieu va venir descendre dans cette salle même et les frapper. Mais c'est grave. Et les gens ont peur. Que le diable il est très fort.
Satan a la comé.
Attention, il y a un démon là, sous le câble. Il y a un démon sous la baffle. Et c'est le prédicateur qui fait peur à ses brebis. Non, nous devons apprendre à infuser la foi dans les gens. Mais encore faut-il que nous soyons des gens de foi. Des gens qui montrions un exemple en tant que serviteurs de Dieu. Maintenant, il y a des serviteurs de Dieu, ils font des grandes déclarations qu'ils ne croient même pas dans un atome de la déclaration. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand un serviteur de Dieu déclare quelque chose par la foi, il doit savoir ce qu'il dit et par quel type de foi il est animé. Parce que son peuple va le croire un certain temps. Et au bout d'un moment, il va le regarder comme ça en disant on est habitué à ce que tu dis. Hein. Tu n'y crois absolument pas. Donc Jésus va ici dire à son peuple qui vit dans la défaite. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, donc la persécution. Donc vous allez être persécutés afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Ça c'est vraiment des chrétiens et une église qui se fait vaincre par le monde. Et en fait Jésus est en train de leur dire, vu votre niveau de foi, vous allez souffrir. C'est vrai, dans l'éternité, je suis avec vous, vous aurez la couronne de vie. Mais Jésus ne peut pas leur donner un message qui va les aider à transformer leur situation. Parce que c'est une église qui a trop peu de foi. Une église qui a trop peu d'enseignement. Une église qui se retrouve avec des difficultés, la persécution, de l'humiliation. Et qui n'a pas choisi de vivre dans son héritage. Donc quand les temps sont difficiles, Et croyez-moi, les temps de l'église dite primitive ici étaient difficiles à la fin du 1er siècle. Quand on étudie cette période de l'histoire de l'église, à la fin du 1er siècle, c'est-à-dire quand Jean reçoit cette révélation, le christianisme n'avait pas de base légale, n'avait plus rien, n'était même plus réattaché au judaïsme. C'était une période très difficile pour les chrétiens. Parce qu'en l'an 70, c'est-à-dire à peu près 25 ans avant que Jean ne reçoive cette révélation,
eh
bien Jérusalem avait été envahie par les Romains, l'armée romaine. Donc Israël n'existait plus en tant que nation en l'an 70 après Jésus.
Donc,
là nous sommes environ en l'an 95 après Jésus. Et quand on étudie vraiment l'histoire de l'église, on s'aperçoit que quand Jean reçoit sa révélation, c'est-à-dire autour des années 90, environ 60 ans, un peu plus de 60 ans après la résurrection de Jésus, d'abord l'église était constituée principalement de souches païennes, c'est-à-dire des païens qui étaient venus à Christ, qui étaient nés de nouveau. L'Empire romain ne la reconnaissait plus comme une branche du judaïsme, puisque de toute façon, Israël n'était plus une nation. Donc évidemment ils ont subi beaucoup de difficultés parce qu'ils n'avaient pas un droit légal de pouvoir être des églises. Vous savez, c'est très facile si vous voulez persécuter un groupe particulier ou des gens qui font certaines choses que vous ne voulez pas dans une nation. Vous leur enlevez un cadre légal ou vous ne créez pas de cadre légal. À ce moment-là, ce groupe se réunit sans légalité. Donc vous pouvez les accuser de tout ce que vous voulez. C'est ce que l'Église de Dieu va vivre d'ailleurs pendant deux siècles. À partir du moment où Jérusalem sera détruite par l'armée romaine, Israël ne sera plus une nation. Jusqu'en 1948. Et croyez-moi, l'Église de Dieu, les chrétiens à ce moment-là, étaient complètement en l'air au niveau juridique. Ce qui fait qu'ils ont été beaucoup persécutés. On a beaucoup abusé des chrétiens. On a profité des chrétiens dans toutes sortes de choses. Donc Jésus clôture en disant, verset 11, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera pas touché par la seconde mort. Et là, le vainqueur, c'est celui qui est resté fidèle à Dieu, qui n'a pas vécu vraiment dans les choses glorieuses de Dieu, mais qui a eu la foi et qui a marché comme il pouvait, selon sa connaissance avec Dieu. C'est le lot de beaucoup de chrétiens aujourd'hui sur cette terre. Et dans toute l'histoire de l'Église. On voit des gens qui sont là, bon, ils ont reçu Jésus, mais ils vivent comme des pauvres spirituellement, comme des pauvres dans leur mentalité, dans leurs relations. Financièrement aussi très souvent. Ils subissent les crises économiques. Et ils n'ont aucune influence. Donc ils ont toujours des témoignages où Dieu a agi, mais il faut un microscope pour chercher le témoignage réellement où Dieu a agi.
Ariko mugabo kabanza kuvyagura ivyo bintu kugira ngo ushobore kubibona.
sont pas capables de changer leurs circonstances. Et c'est triste de voir une église qui marche dans la défaite. Alors que Dieu nous appelle à vivre dans la victoire. Dieu nous appelle à réaliser grand. Dieu est le Dieu de l'infini, frères et sœurs. Il est le Dieu de l'infini. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. L'infiniment grand et l'infiniment petit. C'est lui qui a créé tout ça. Ce monde tient parfaitement et marche comme une horloge parfaite. Parce qu'il a parlé. Et toutes les lois spirituelles et naturelles sont en parfaite harmonie, chacun pour leur chose. C'est pourquoi Dieu les a créés. Et cela marche parfaitement. Parce qu'il a parlé. Si Dieu un jour disait une parole, on disait que tout cela ne soit plus. Tout disparaîtrait. Il
n'y
aurait plus rien. Tout se désagrégerait.
Toutes
les créatures spirituelles disparaîtraient. Toute la matière deviendrait inexistante.
Ce
serait un chaos total. Mais parce qu'il tient toutes choses entre ses mains. Cela fonctionne parfaitement. Bien sûr, le péché est venu salir. Le péché est venu salir tout ça et a mis beaucoup de désordre. Mais au milieu de ce désordre, il y a l'ordre divin. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Celui qui aura continué dans la foi en Christ, qui n'aura pas renié Jésus. C'est ça que ça veut dire ici. Parce que la seule chose qu'il pouvait vaincre, c'était de passer, entre guillemets, dans cette vie. Sans grande victoire, mais au moins en ayant toujours confessé Jésus jusqu'à leur dernier jour. Ça, c'est bien. Mais il y a beaucoup plus. Il y a notre héritage en
Christ.
Ensuite, Jésus va s'adresser à la troisième église, c'est Pergame. Et nous allons voir que l'église de Pergame, c'est une église qui avait de sérieux problèmes. Nous allons lire ensemble, verset 12, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Verset 13. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Verset 16. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Verset 17. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui la reçoit. En fait, cette église, c'est une église qui avait vraiment des confusions entre la vérité et les manifestations démoniaques. Au verset 12, nous l'avons vu, Jésus va dire, voici, c'est comme ça qu'il se présente, celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Et nous savons dans Hébreux chapitre 4, verset 12, qu'on va afficher, Jésus va nous montrer ce que c'est que l'épée à deux tranchants. Il est dit dans Hébreux 4, 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc en fait, Jésus se présente au verset 12 de Apocalypse 2. comme celui qui a l'épée à deux tranchants.
Et
ce n'est pas par hasard que Jésus se présente comme cela. Jésus se présente comme cela parce que ça va être la parole de Dieu qui va nous permettre de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire la vérité de l'erreur. C'est pour ça que Jésus directement se présente comme ça. Celui qui tient l'épée à deux tranchants. La parole qui va permettre de dissocier ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Quand nous lisons les versets 13, 14 et 15, ce que nous avons lu tout à l'heure, Jésus parle que c'est là où il y a le trône de Satan, c'est-à-dire c'est là où il y a des manifestations sataniques dans l'endroit, dans la ville, certainement. Et en fait, Jésus leur reproche quelque chose. Il y a quelqu'un qui va souffrir le martyr, qui va être mis à mort pour sa foi. Et ce n'est pas facile, vous savez, si quelqu'un se fait mettre à mort pour sa foi, le peuple de Dieu est là et waouh, ça donne un coup quelque part. Par exemple, quand on va entendre qu'il y a une église qui a brûlé au nord du Nigeria parce qu'il y a des musulmans intégristes qui ont mis le feu,
ou
qu'en Égypte, il y a les églises coptes qui sont des églises très religieuses, d'ailleurs qui ne prêchent pas la nouvelle naissance, mais pour des prétextes de religion, on tue des gens. Ça choque. Quelque part, nous sommes choqués, c'est normal. Parce que ce ne sont pas des gens qui ont tué, qui ont volé, qui ont fait des choses qui, je dirais, condamnables par la société ou par le droit en général. Ce sont des gens qu'on persécute, pourquoi ? Pour leur foi. Mais là, Jésus va leur, va leur reprocher quelque chose d'important. Au verset 14, et je crois au verset 15 aussi, en fait Jésus est en train de leur reprocher la chose suivante. Il leur reproche de faire du mélange entre le monde spirituel divin et le monde spirituel satanique. Quand on étudie ce texte, on peut voir vraiment que dans cette église, il devait y avoir des manifestations surnaturelles. Mais tout ce qui est surnaturel ou miraculeux ne vient pas forcément de Dieu. La source peut être divine, mais le diable aussi fait des choses pour imiter Dieu. Et en fait, ce que Jésus reprochait à cette église, c'est qu'en fait, il mélangeait le monde de Dieu et qu'à l'intérieur de l'église, il y avait des choses indignes du Seigneur. C'est-à-dire que, en fait, il y avait la séduction, ce qu'on appelle. On va reprendre au verset 14. Il est dit, mais ce que j'ai contre toi, certains griefs, tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Vous vous rappelez de la doctrine de Balaam, nous l'avons vu, c'est ce prophète de Dieu, donc quelqu'un qui a des dons divins, mais qui a des motifs impurs, qui vend, entre guillemets, ses dons, qui monnaie ses dons. Et qui amène les autres vers donc de l'idolâtrie. Là, on parle de manger des viandes sacrifiées aux idoles et se livrer à la débauche. Donc, en fait, ce que Jésus leur reproche, c'est qu'il y a des gens parmi eux qui font des choses diaboliques, qui utilisent des dons de Dieu et qui pervertissent ces choses, qui amènent d'autres personnes dans de l'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est mettre Dieu avant quelque chose donc avant Dieu dans nos vies.
Gusenga ibigirwamana ni kintu cyose ufata ukagishira imbere y'Imana mu buzima.
Le reproche qui était fait aussi c'était l'impudicité, c'est-à-dire les relations sexuelles hors mariage.
Nikindi babagirije ni ubushakanye cyangwa ubusambanye guhuza ibitsina n'umuntu inyuma imbere yo kugira ubugeni.
Il faut comprendre une chose, c'est que dans pas mal de sociétés, surtout dans ces coins-là du monde à cette époque-là, ces choses-là étaient très courantes. On sacrifiait des animaux aux idoles, c'est-à-dire aux démons. Et après on allait les revendre au marché. Il y avait plein de temples partout dans ces villages, surtout entre autres en Turquie et en Grèce, où il y avait des coutumes païennes, où on allait dans les temples, on offrait des sacrifices à des mauvais esprits, des faux dieux. On donnait aussi de l'argent. Et on allait aussi donner de l'argent pour aller coucher avec les prostituées du temple. Tout se faisait sous le couvert de la spiritualité satanique, bien sûr. Et Jésus ici voit que cet esprit du monde satanique était rentré dans l'église. Ces coutumes païennes d'utiliser les dons de Dieu à des fins perverses, d'influence, d'argent, amener de l'idolâtrie, amener de l'immoralité dans l'église, et c'était connu. Et c'est ce que Jésus va reprocher à cette église. En fait, il va reprocher cela pour pouvoir faire quoi? Pour qu'elle se repente. Et là aussi, verset 16, et on va clôturer par ça aujourd'hui, c'est que toujours, tu voyais partout, même quand il y a des moments qu'on appelle d'apostasie ou de rétrogradage dans le corps de Christ. Dieu vient toujours prévenir son peuple. Et Dieu laisse toujours une porte à quoi? La repentance. Il laisse toujours une place à la repentance. Dieu choisit toujours et laisse toujours une place à la repentance. Il dit repens-toi, verset 16. Repens-toi, c'est-à-dire ne laisse pas ces gens-là polluer l'église. Ces gens-là qui ont des motifs impurs, qui utilisent mes dons pour faire des choses inacceptables. Tout ce péché qui reste et qu'on connaît dans l'église. Jésus dit repens-toi. Il y a toujours au milieu de ça un reste de chrétiens qui marchent avec Dieu dans l'intégrité. Mais Jésus dit à cette église repens-toi. Sinon ces gens-là seront jugés. C'est ça que Jésus dit. Ces gens-là seront jugés. Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. C'est-à-dire que il va y avoir du nettoyage. Et là aussi, Jésus nous montre une chose. On ne construit pas un ministère ou une église sur un don. Mais sur la parole de Dieu. Il y a parfois des gens qui commencent dans le ministère et qui parfois ont un don très très développé dans différents domaines du ministère. Par exemple, quelqu'un qui a un don de guérison. Qu'est-ce qu'il fait? Il construit son église sur la guérison. On ne construit pas l'église sur la guérison, sur le don de guérison. Ou sur la prophétie. On construit l'église sur quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Le don vient en plus.
Mais
l'église de Dieu doit être construite sur sa parole.
Parce
que sa parole nous construit dans la vérité. Nous permet de discerner les sources. Si elles sont divines, si elles sont humaines, ou si elles sont sataniques. Et les dons que Dieu nous fait en tant que serviteurs de Dieu. Des focus très particuliers par rapport à quelque chose de particulier. Cela vient en plus. Par exemple, si un pasteur est très doué pour la louange et l'adoration, il ne peut pas construire son église sur la louange et l'adoration.
Il
construit sur la parole et son don dans la louange et l'adoration va être un plus pour l'église. Mais ça ne doit jamais être une fin en soi, c'est-à-dire la focalisation unique. Donc c'est très important de comprendre que la parole, c'est notre fondation. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.